Bonjour, Claire-Marie Meignier, je travaille chez SNCF Réseau. J'ai trois questions courtes. La première, quel est le taux de marchandises qui arrivent à Tangemed qui sont à destination du Maroc et de l'Afrique? Ma deuxième question, le taux de marchandises qui est traité à Tangemed dont la destination finale c'est le Maroc ou l'Afrique. La deuxième question, vous avez parlé d'une fondation Tangemed avec 1% des sommes investies. Si vous pouvez nous illustrer avec un ou deux projets qui seraient soutenus par cette fondation. Et ma troisième question, vous nous avez montré deux films qui sont des très beaux films et qui étaient en français. Pour moi, vous êtes sur un secteur de la logistique et du commerce international où la langue, c'est plutôt l'anglais. Donc, je me demandais, puisque vous avez fait ces films, à qui ils sont destinés. Je me doute que ça existe en anglais, mais justement, je me demande pourquoi vous les mettez en français. Mais à qui vous les montrez en français? C'était ça ma question.
À vous.
Olivier Morzel, direction des territoires en Seine-Maritime. J'ai une question un petit peu technique sur l'organisation du port. Vous avez évoqué le fait que les différents terminaux étaient concédés, si j'ai bien compris, aux grandes alliances de transporteurs internationaux. Qu'en est-il de la manutention? Est-ce que ça fait partie des services intégrés assurés par TRSA? Ou est-ce que ce sont des sociétés privées de manutention avec lesquelles les alliances passent des contrats ou des conventions?
Xavier Auclair, EDF. Une question sur les personnes qui travaillent dans l'ensemble des zones d'activité. Ça fait plusieurs milliers de personnes. Où est-ce qu'elles vivent et quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail?
Oui. Oui, bonjour. Oui. Yannick Vissou de l'agglomération de Dunkerque. Une question sur le montage financier. Donc vous avez une société anonyme qui est issue de partenariats public-privé, à majorité publique. C'est-à-dire que la dotation se fait essentiellement par l'apport de terrain où il y a une autre intervention. Et ensuite, la société anonyme, vous avez évoqué les solutions de location ou de vente. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment ça peut se passer, vente définitive du terrain, partenariat, et aussi le cas de figure où vous êtes investisseur en termes de bâtiment?
Oui. Oui, madame. Valérie Paulet de la CGT, Organisation des salariés. Je voudrais vous poser une seule question, c'est savoir quelle est la place du dialogue social, notamment sur le port.
Alors, je vais commencer peut-être par la première question qui concerne le pot, ou bien la répartition de marchandises qui sont en accord ici au port Tangemed. C'est ça? Si j'ai bien compris votre question.
La destination finale,
est-ce que vous parlez des marchandises en transport demain ou des marchandises import-export? Parce que si on parle de transbordement, c'est du trafic monde. 95%, comme je l'ai précisé dans notre trafic conteneur, c'est du transbordement, donc c'est du trafic rendement, donc qui vient pour la région méditerranée ou bien pour l'Afrique de l'Ouest. Sur ma présentation, je n'avais pas une carte sur laquelle on montre un peu les pourcentages de flux de transbordement, comment ils sont répartis. Alors plus de 30% dans notre trafic de transbordement, il est à destination de l'Afrique de l'Ouest. Donc on est un vrai hub donc, de transbordement. Donc du conteneur pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi une bonne partie qui va remonter au niveau de l'Europe et de la Méditerranée, c'est à peu près 20%. 10% ça va partir vers l'Amérique du Nord et le Canada. Et peu de choses vont partir vers l'Amérique du Sud. Alors en termes d'import-export, c'est bien entendu, quand on parle de l'import, c'est le trafic domestique principalement qui vient. Principalement pour la région Nord, pour accompagner l'approvisionnement en matières premières, le sourcing, pour toutes les unités industrielles qui sont installées au Nord. Il y a aussi des opérateurs à CASA qui font de l'import à partir de Tangemed, vu la connectivité du port. Et aussi, on traite avec presque toutes les régions du Maroc en termes de trafic import-export. Pour ce qui est du film institutionnel, Effectivement, on a trois traductions de films. Donc, on a un film en français donc, qui est destiné donc, à une population francophone. Donc, toute la population marocaine donc, elle est francophone. Donc, nos clients marocains, donc, on travaille avec, donc, principalement avec le film en français. On a aussi une grande communauté espagnole, donc, vu la proximité avec l'Espagne et les partenariats donc, avec l'Espagne. Alors, l'Espagne, il est passé en premier partenaire économique du Maroc. Donc, du coup, on a beaucoup de sociétés espagnoles qui sont installées, beaucoup de clients espagnols. Donc, même le personnel donc, du port, il y a pas mal de personnes donc, qui sont hispanophones. Moi-même, je suis hispanophone, donc c'est parce qu'on doit traiter avec une clientèle donc, espagnole. Et il y a aussi donc, le film en anglais donc, pour le reste des opérateurs et clients.
Bientôt, ça va être en mandarin, ce que les Asiatiques arrivent à prendre.
Alors, il y a une question qui concerne la manutention ou la gestion de la manutention dans les terminaux concédés. Alors effectivement, les schémas de concession donc, sur Tangemel donc, concernent presque toutes les activités, hormis l'activité passager et roulier et braque. Donc la manutention dans les terminaux concédés est opérée directement par le concédant, par le concessionnaire, pardon. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'APM ou Eurogit sur les terminaux à conteneurs, donc, c'est leur propre personnel donc, qui fait la manutention. C'est du personnel qui a été formé maison. Et pour la majorité, c'est des personnes qui n'ont aucune expérience préalable dans la manutention portuaire. Donc, on n'a pas hérité un peu des erreurs des ports historiques, donc, qui ont le système de Dunkerque, le système de Bon, il faut le dire, donc, aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans les ports européens, dans les ports américains, etc. Il y a d'ailleurs des réformes donc, qui ont été engagées. Dernièrement, il y a eu, je pense, un bras de fer donc, dans les ports espagnols, à cause donc, de ce système, parce que la Commission européenne a imposé donc, la réforme du secteur, parce que c'était le seul secteur qui n'avait pas le libre accès à l'emploi, en Espagne. Hein. Et du coup, donc, il y avait des arrêts, il y avait des slowdowns, etc. Bon, nous, la réforme au Maroc, elle est déjà passée, ça fait une dizaine d'années, donc, dans les ports gérés par l'AMP. À Tangemel, donc, ce qu'on a démarré, donc, il n'y avait pas un héritage. Donc, il y avait déjà la réforme qui était passée. Donc, il n'y avait pas forcément donc, une population donc, qu'il fallait réintégrer ou quoi que ce soit. Donc, c'est chaque terminal donc, qui a recruté donc, du personnel. C'est principalement un personnel donc, de la région. Il y a même d'autres personnes. Donc, il n'y avait pas une préférence de recruter de la région ou pas. Par exemple, sur les terminaux à conteneurs, il faut compter à peu près 700-800 personnes par terminal donc, qui travaillent. Mais ce n'est pas ça ce qui crée réellement des postes d'emploi. Ce qui crée de la main-d'œuvre, c'est les zones d'activité. C'est la raison pour laquelle donc, la décision elle a été prise dès le début. Donc, de développer une infrastructure portuaire, mais également de développer des zones d'activité derrière, parce que c'est ce qui génère de la valeur ajoutée, c'est ce qui génère des postes d'emploi pour la population. Pour ce qui est de la résidence des employés, je pense que je vais laisser quand même la parole à M. Alami, donc qui va parler un peu donc, des zones d'activité, et puis on va parler du port.
J'avais noté une question par rapport à. Le travail d'information en général sur oui. Le terrain, que j'ai pensé à deux ou trois projets que j'ai en tête, qui touchent principalement à l'éducation des enfants, que, surtout par rapport aux noyaux de population qui sont enclavés. Donc les actions qui ont été réalisées concernent principalement la réhabilitation, un programme de réhabilitation d'à peu près 200 écoles à l'échelle de tout le territoire sous l'influence de TNSA. Je pense également à tout ce qui est transport d'étudiants et aussi aux travaux d'aménagement de pistes pour désengraver certains voies. Alors, il y a, je parle sous contrôle de ma collègue Margis, je crois qu'il y a le rapport d'activité annuel qui est publié sur le site de l'agence, qui est consultable maintenant.
De la Fondation.
Il doit être disponible sur le site de PNL.
Le rapport d'activité de
la Fondation, oui. Une liste de PNL.
Je pense que c'est pas sur le site PNL.
De toute façon, il faut dire que la Fondation a un statut d'une association d'utilité publique, qu'elle est ouverte sur la Fondation qu'elle femmes sur le territoire. Alors, j'ai noté aussi une question par rapport au déplacement dans le site de travail. Alors, c'est une question qui est relativement sensible dans le sens où TMSA a toujours été dans les discussions, dans les initiatives pilotées par les autorités, parce que là, c'est, comment dirais-je, l'argumentation marocaine impose ou réglemente la régulation du transport collectif. Donc c'est une autorité des organisatrices des transports qui devrait normalement mettre en place les dispositifs et les outils pour mettre en place des solutions de transport collectif, chose qui n'a pas vu le jour depuis des années. Alors c'est quelque chose qui a été réglé partiellement au niveau du droit, parce que je pense notamment aux navettes qui ont été mises en service par le train et puis
et le bus.
Le bus aussi. Mais dans les zones d'activité, ça n'a pas vraiment fonctionné. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de transport collectif. Chaque entreprise transporte ses employés par des bus assurés par des sociétés privées.
Et il y a aussi un projet à l'étude pour la PLZ, donc c'est la ligne de tramway. Donc, il y a une étude donc une ligne de tramway donc qui devrait passer donc par le centre de la ville de Tanger et aller jusqu'à la Tanger prison. Ça permettrait donc de réduire le nombre de minibus et bien sûr de désengorger les artères de bois principalement de la ville. Mais comme vous savez, les projets de transport en commun, donc, c'est des projets trop longs. Et donc la question donc, va se poser par la suite donc, pour ce qui est donc, du financement. Et est-ce qu'on va subventionner la ligne? Est-ce qu'on aura donc, un financement pour rentabiliser donc, la ligne? Ce qui est aussi vrai, c'est que par exemple sur la grande ville de Casablanca et Rabat, donc, ça s'est très bien développé d'ailleurs. Ils sont en train de faire les expansions donc, des lignes de tramway. Mais ça ne va pas tarder, je pense, sur la ligne de Tanger. Il y avait une question par rapport au montage financier. Donc, je vais parler pour la partie pour le portugais. Donc, le montage financier, donc, comme je l'ai expliqué, donc, c'est un montage public-privé. Donc, c'est presque 7,5 milliards d'euros donc, qui ont été engagés dans l'infrastructure du port, plus les infrastructures de connexion, à savoir le rail et l'autoroute donc, qui dessert le port. Dans ce montage, donc, l'État donc, a mis en place donc, tout ce qui est foncier, tout ce qui est infrastructure. Donc, dans les montages de concessions, généralement, le port réalise tout ce qui est infrastructure. Il faut entendre par infrastructure portuaire donc, les digues de protection, les travaux de dragage, les murs de quai, les terrassements. Donc, on laisse les terminaux à un niveau moins 1 mètre. Par la suite, c'est le concessionnaire donc, qui va venir faire le tour. Termine donc faire déjà ses réseaux, donc les réseaux électriques, les réseaux donc, de fluides. Il va faire donc le revêtement, le dernier revêtement, c'est soit donc du bitume, soit du pavé donc, pour le revêtement du terminal. C'est lui qui va prendre en charge également donc, tout ce qui est grue, tout ce qui est moyen de levage et de manutention dans son terminal. Il va faire la construction de ses bâtiments, tout ce qui est clôture de sécurité, système de vidéosurveillance, etc. Donc, a priori, c'est du 50-50, c'est-à-dire que si on analyse un peu donc, le montage financier donc, de ces concessions, c'est presque du 50% réalisé par l'autorité portuaire comme investissement public, et du 50% donc, c'est réalisé en termes d'investissement en termes de structure par le concessionnaire. C'est des schémas de concession généralement sur 30 ans, donc, ce qui permet donc, d'avoir donc, un retour sur l'investissement et d'amortir bien sûr les fonds qui ont été engagés. Bien sûr, il y a des systèmes de redevances fixes et variables avec des trafics garantis donc, pour pouvoir donc, honorer les engagements vis-à-vis des documents. Voilà. Pour la partie zone d'activité, donc, je vais laisser la parole à M. Alors,
pour ce qui est des zones d'activité, comme vous savez, les zones d'activité, c'est un projet qui est valorisé par les tranches. Donc chaque tranche fait l'objet d'un montage particulier. Souvent c'est des projets, enfin des tranches qui font l'objet d'un autoportage. Mais quand il y a besoin de recourir à un financement, on fait appel systématiquement aux actionnaires qui sont dans le cadre de TNZ. Donc, en gros, c'est un schéma qui est très simple.
Par rapport au dialogue social, certainement, on est un port jeune, donc certainement on passe par le circuit normal, donc vécu par tous les ports, c'est-à-dire on passe aussi par des petites crises sociales, etc. On a vécu une crise en 2011-2012, donc il y a eu quelques grèves, bien sûr, et c'est ce qui est normal, dans un port jeune. Donc ce qui a été mis en place et ce qui a été fait, donc bien entendu, c'est le dialogue social. C'est des conventions collectives qui ont été signées directement par les concessionnaires et leurs employés, parce que c'était des employés des concessionnaires, donc ce n'était pas des employés du corps. Et depuis, donc, il y a une certaine paix sociale donc, qui règne donc, au niveau du port, et c'est ce qui permet, bien sûr, le développement des trafics au niveau du port, et c'est ce qui donne des assurances aux opérateurs qui sont installés. Comme vous savez, les trafics de transbordement, et on fait 95% de trafics en transbordement, sont des trafics très volatiles. Donc dès que vous avez une crise sociale, dès que vous êtes en train de donner un mauvais signal aux investisseurs, les trafics peuvent partir très très rapidement. Là je parle des lignes maritimes principalement, qui peuvent décider du jour au lendemain donc, de basculer d'une rive à l'autre. Alors on a le même opérateur qui est installé à Algeciras, je parle d'APM Terminal, c'est le leader mondial, et il est installé dans les deux rives. Il est installé à Algeciras, il est installé chez nous. D'ailleurs, il vient de prendre un deuxième terminal sur Tangemet 2, et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que, en fin de compte, on est réellement aujourd'hui comme un support port au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, un opérateur comme APM ou Maersk Line donc, vient pour avoir une certaine position dominante au niveau du détroit de Gibraltar, bien sûr, pour un peu verrouiller donc, le trafic au niveau du détroit, parce qu'il y a d'autres players donc, qui sont installés. Juste à côté, il y a l'ESC, l'ESMA, CGM. Donc chacun, un peu, donc, il a un footprint donc, dans certains ports de la région. Et Maersk, donc, elle a pris la décision donc, de s'installer sur le détroit de Gibraltar. Alors depuis le démarrage du port, bien sûr, aucun port n'a perdu de trafic. On est tous les deux donc, sur une augmentation importante de trafic. Algeciras, ils sont passés de 3 millions et quelques à 4,6 millions actuellement. Nous, on a démarré de zéro. Actuellement, on est à 3 millions, donc on est déjà à notre capacité maximale sur le port Tangemet 1. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à une stabilité, à une productivité donc, du personnel, au service donc, des personnes qui travaillent.
Oui. Est-ce que les quais sont déjà pré-commercialisées, par exemple, pour Tangemet 2
Les quais,
les terminaux sont déjà pré-commercialisés?
Ils sont concédés déjà.
Concédés, ils sont
pré-concédés? Oui, ils sont déjà concédés. Alors, sur les ports, comme vous savez, on est sur une capacité d'offre. C'est-à-dire, généralement, dans les ports, je pense qu'il y a des gens qui représentent ici des ports français, on construit les terminaux, on aménage les ports, et c'est après qu'on va chercher des opérateurs et des concessionnaires. Alors, si vous n'êtes pas prêt au bon moment, les opérateurs peuvent partir ailleurs. C'est-à-dire, nous, par exemple, sur Tangemet 2, la décision d'investir sur Tangemet 2, c'était une décision qui a été prise en pleine crise économique et financière mondiale. La décision elle a été prise en 2009. C'était en pleine crise, mais on a pris le parti, on a parié pour que ça réussisse. Et il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça nous a permis peut-être de construire à un coût plus intéressant, parce que le coût des travaux donc, en pleine crise est moins cher que lorsqu'il y a donc beaucoup de prospérité. Mais sinon, on s'aventure un peu dans un investissement dont on n'est pas sûr du résultat, parce que personne ne sait quand est-ce que la crise va s'arrêter. Mais là, on voit bien que la décision elle a été prise au bon moment, parce qu'on est déjà à saturation sur le port Tangemet 1, et les futures expansions, c'est Tangemet 2.
Oui,
Anne.
Oui, bonjour, je voulais poser une question sur la relation entre
le
port international et la métropole. En gros, la relation ville-port, même si elle change d'échelle. On a l'impression que la stratégie du port est particulièrement rationnelle, bien analysée, bien positionnée d'un point de vue géostratégique, complémentaire, etc., mais que c'est un peu une île sur le territoire sans que vous ayez mis en valeur très fortement les relations entre la ville et le port. Donc, ma question est toute simple. Qu'est-ce que vous attendez comme service de la ville de Tanger pour le port? Et qu'est-ce que Tanger peut attendre du port? comme retomber comme valeur ajoutée sur le territoire de la ville.
Alors, peut-être sans vous, pour élargir la question, si je me permets, c'est quel cadre de coopération vous avez avec les collectivités et leurs habitants? Comment vous gérez la relation de proximité des services, les attendus d'un côté et de l'autre? Parce que pour l'instant, il y a comme une autonomie de décision et de fonctionnement, mais comment l'écosystème de vie fonctionne?
Ce sont deux questions importantes et différentes. Ce sont donc les dernières.
Alors, sans vouloir trop m'aventurer donc, sur l'aménagement territorial et le développement donc, de la ville et du port, déjà, nous, on n'a pas derrière une ville de proximité, c'est-à-dire on est à 50 km de la ville de Tanger. Mais le port, il a été érigé et construit dans une zone donc, rurale. Sur laquelle il n'y avait pas beaucoup d'habitations, pas beaucoup d'activités. Et donc le port, lorsqu'il a été aménagé et construit, donc, il a permis un certain développement de toute la région qui est avoisinante, tous les doigts, toute la province de Farfangela. D'ailleurs, il y a beaucoup de partenariats en termes d'investissement, en termes d'emploi qui a été généré à travers le port. Donc déjà, à travers la Fondation Tangemel, il y a donc des investissements importants qui ont été réalisés au profit de la région. Là, je parle comme cela a été expliqué par M. Alain. Donc, il y a des investissements pour la scolarisation des enfants de la région. Il y a des investissements dans le secteur médical. Des investissements pour le développement économique de la région, de la femme rurale. Donc, il y a pas mal d'investissements qui ont été engagés dans ce sens. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'emplois qui ont été créés pour les gens de la région. Donc, on emploie beaucoup de personnes de la région, vu la proximité. Il y a aussi des investissements, bien sûr, pour la formation des personnes dans les différents secteurs d'activité. Donc, comme je viens de le dire, le port en soi ne génère pas beaucoup d'emplois. C'est-à-dire que dans tout le port, il faut compter peut-être 7 000, 8 000 personnes qui travaillent. Toute administration, services, opérateurs confondus. Mais ce qui crée réellement de la richesse, c'est les zones d'activité. Alors, je parle des zones d'activité logistique, des zones industrielles. Et donc, le port, en fin de compte, c'est le point de jonction entre la terre et la mer. Donc, nous, on est là pour gérer des flux import-export, on est là pour faire du transbordement de conteneurs, mais aussi pour le développement de l'arrière-pays. Parce que derrière, Tangemel, elle est porteuse de projets d'aménagement de zones d'activité industrielle importantes dans la région. Et je pense qu'aujourd'hui, Tangemel, c'est une vraie locomotive pour le développement de la région Nord. On prend un exemple, l'usine de Renault, qui est un exemple très parlant, ça a permis de générer jusqu'à 36 000 postes d'emploi dans la région. Bien sûr, il y a des personnes de la région, mais il y a toute la population marocaine qui en tire profit. Les équipementiers de Renault qui viennent s'installer aux alentours du site de Renault, c'est pour atteindre un taux d'intégration supérieur à 60%. Et ces sites, lorsqu'ils sont installés, ou ces usines, lorsqu'elles sont installées, donc elles sont là, non seulement pour servir à Renault, mais à servir à une activité d'export. Donc c'est vraiment un effet d'entraînement qui vient avec la création de ce type d'activité au niveau de la région.
Oui. Il y avait la question sur les collectifs, sur l'articulation avec les collectivités.
Alors, par rapport aux élus de la région, par rapport aux collectivités, etc., donc il y a un travail qui se fait au niveau, bien sûr, de l'agence spéciale, bien sûr, avec un dialogue en permanence pour voir quels sont les secteurs sur lesquels il faut travailler, quels sont les projets à développer. Il y a aussi un partenariat très étroit avec la PDM, avec l'Agence de développement des provinces du Nord, parce qu'il y a quand même une certaine harmonie. L'Agence spéciale Tanger Méditerranée, comme on vient de le dire, est un instrument de l'État. Et dans le tour de table, il y a des ministres qui siègent. Donc il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de Commerce et Industrie, il y a le ministre de transport et de la logistique. Donc, il y a une certaine harmonie, bien sûr, au niveau des projets, au niveau de la vision stratégique, parce que Tangemel reste un instrument de l'État pour tirer la locomotive de croissance de toute la région et du pays de manière générale.
Et je vous remercie beaucoup.